Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui au livre La Révolution défaite, les groupements révolutionnaires parisiens face à la Révolution espagnole. Et pour discuter de cet ouvrage et surtout esquisser une histoire de justement des groupements révolutionnaires parisiens face et dans la Révolution espagnole, nous sommes avec l'auteur Daniel Ayache, historien. Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, pourquoi ce livre et aussi quelle est un peu la situation du mouvement libertaire français quand arrive le 18 juillet 1936, le coup d'État de Franco et la contre-insurrection populaire qui s'ensuit.
Alors le pourquoi du livre, je suis parti d'abord d'un petit constat qui est que l'aspect révolutionnaire de la Révolution espagnole est rarement traité, il est plutôt traité sous l'angle de la guerre d'Espagne, et encore moins sous l'angle que c'est une révolution qui a été défaite. Ensuite, je suis parti de la question de la mémoire, et je me suis dit que la mémoire de la Révolution espagnole était travaillée dans 10 000 ouvrages, dans des ouvrages de littérature, dans des romans, de la poésie, etc. Et que si elle était travaillée à ce point-là, c'était sûrement pas par hasard. Même si elle était souvent travaillée de manière mensongère, elle est travaillée parce que la forme de cette défaite a laissé un traumatisme général. Je me suis dit ensuite que pour voir ce traumatisme, il valait mieux faire un pas de côté. Ne pas rester en Espagne, là, sur l'Espagne, je ne dirais pas que tout est dit, on va sûrement dire encore de nouvelles choses, etc., trouver de nouvelles analyses, mais il y a 40 000 bouquins qui sont sortis dessus. Et j'ai voulu faire un pas de côté en venant à Paris pour regarder la solidarité qui avait existé à Paris, les groupes révolutionnaires, comment ils ont vécu ce moment révolutionnaire, comment ils se sont décidés à intervenir dessus, quel effet ça a fait sur eux. C'est une situation un petit peu paradoxale parce que les mouvements révolutionnaires à Paris, toutes tendances confondues, sont à ce moment-là extrêmement minoritaires. Ils sont plutôt rétrogrades par rapport à la situation espagnole. La CNT, la FAI, c'est d'abord un chiffre incomparable, c'est 800 000 membres au départ, 2 millions à la fin, avec des militants d'une extrême qualité, etc. Toute situation qui ne correspond pas à la France. Mais la France a cette petite distance qui permet à certains militants d'avoir une vision plus critique et plus perspicace de ce qui se passe là-bas. Ils vont avoir la vision, mais ils ne vont pas avoir l'influence. Il y a quatre personnages, notamment, qui vont avoir une influence extrêmement importante, qui sont Pierre Besnard, Nicolas Lazarevitch, Charles Ridel et André Prudhomme. Ces quatre-là vont, dans le temps de la Révolution espagnole, égrener toutes les critiques qui pourront être faites ensuite sur la collaboration du gouvernement, sur la critique de l'idéologie antifasciste, etc. Ils vont égrener cette critique sans pour autant être écoutés. Ils ne vont pas être écoutés en Espagne, ils vont même être chassés des instances qu'ils occupent en Espagne ou pour l'Espagne. Et puis ils vont être ensuite placés de plus en plus en minorité en France. Mais ils vont développer cette critique, même si eux-mêmes ensuite ne vont pas la porter. Ils vont être poussés par l'esprit de la défaite et ils vont vivre une défaite prolongée ensuite. Et André Prudhomeau, par exemple, qui est exemplaire pendant toute cette période, sort après la guerre d'Espagne, après la Révolution espagnole plutôt, sort de toute activité politique et révolutionnaire. Il rentre dans une sorte d'anarchisme individualiste très tourné plutôt vers la poésie, etc. Un mode de vie. Mais il sort de l'action politique qui était pourtant toute sa vie jusque-là. Et on va retrouver cette situation ensuite. La situation révolutionnaire à Paris, elle est... Je parle de Paris, c'est la situation en France, mais Paris est exemplaire. Paris est exemplaire parce que Paris sert de base arrière pour tous les groupes révolutionnaires. Et aussi pour les staliniens, encore plus pour les staliniens que pour les groupes révolutionnaires. C'est à Paris qu'il y a le siège des Brigades internationales. C'est à Paris qu'ils installent le siège de la compagnie France Navigation qui va livrer les armes pour l'Espagne. C'est à Paris qu'il y a la BCEN, c'est la banque russe qui finance l'Espagne et qui prend l'argent de l'Espagne aussi. Donc tout est concentré à Paris et les groupes révolutionnaires, même les tout petits groupes trotskistes qui des fois sont 5 ou 6, se regroupent à Paris, regroupent les gens qui viennent les rejoindre et c'est de là qu'ils mènent leur action vers l'Espagne. Il y a bien sûr des groupes importants près de la frontière pour faire passer les gens, etc. Mais les discours politiques, les analyses politiques, c'est à Paris qu'elles sont. Et quand en juillet 1936, la révolution espagnole commence, ensuite, si on reste sur le terme révolution, dater la fin de la révolution est un petit peu difficile. La vraie période révolutionnaire, selon moi, elle se termine fin novembre. Et on peut ensuite, on a une semi-période jusqu'à mai 37 qui est l'écrasement complet. Mais la vraie période révolutionnaire, c'est juillet 36, novembre 36. Là, on voit toutes les occupations fleurir partout, etc. Et on voit l'écho que ça peut avoir à Paris. Le tableau révolutionnaire parisien, il est une tendance minoritaire, extrêmement minoritaire avec les trotskistes de l'époque, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux d'aujourd'hui, qui sont importants aussi parce qu'eux, ils auront un contact avec les surréalistes qui vont servir un peu d'intermédiaire entre les deux tendances. Et puis on a la tendance anarchiste qui est plus nombreuse, sans pour autant avoir une grande influence. On est en bout de course du mouvement anarchiste français, qui a été important, mais qui là a perdu beaucoup de son importance et qui a dû se jeter dans la bataille d'abord des grèves du Front Populaire, et puis dans la solidarité à l'Espagne. Alors c'est avec des troupes faibles, divisées, désorganisées que le mouvement anarchiste se jette là-dedans. Il y a beaucoup de groupes à ce moment-là en France, mais il y a en gros trois tendances principales. La plus forte, celle qui concentre tout vers elle, c'est l'Union anarchiste. L'Union anarchiste, c'est la plus nombreuse et la plus organisée. Elle a un poids parce qu'elle a le journal du mouvement anarchiste de l'époque qui est le Libertaire. Tout le monde écrit dans le Libertaire. Ils se disent... Alors à chaque fois, les chiffres que je donne sont les chiffres donnés par les organisations. On peut supposer qu'ils sont un peu gonflés. Ils se disent 4500. Donc si c'est vrai, on va dire entre 3 et 4000, c'est déjà un chiffre important. Mais ce sont les plus... Si je reprends le terme utilisé par les autres, ce sont les plus politiques. Ils sont, dès le début de la Révolution espagnole, ils sont pour un front, ce qu'ils appellent un front révolutionnaire, c'est-à-dire regrouper toutes les tendances révolutionnaires selon eux, c'est-à-dire que ça va aller jusque des tendances, même pas la tendance Marceau-Pivert du Parti Socialiste, mais des tendances centristes, ils vont faire des accords avec Paul Fort, avec des gens... très, très modérés, ils sont pour le front le plus large. Alors avec les trotskistes, bien sûr, avec la gauche révolutionnaire de Marceau-Pivert, avec la bataille socialiste de Zhirinovski, ils sont pour un élargissement le plus possible jusqu'à noyer, jusqu'à faire disparaître leurs propres idées anarchistes à l'intérieur. C'est un mouvement large, mais lui-même composite. À l'intérieur de l'Union anarchiste, il y a un courant plus radical, qui s'appelle la Fédération communiste libertaire, qui est à l'intérieur de l'Union anarchiste. Le militant le plus connu de ce courant, c'est Charles Ridel, selon le pseudonyme qu'il a à l'époque. Il a changé régulièrement de pseudonyme. Après-guerre, il réécrira sur tout ça sous l'autre pseudonyme de Louis Mercier-Véga. Donc, voilà, Fédération communiste libertaire qui aura une importance à la fin de la Révolution espagnole. Enfin, les gens qui vont en sortir auront une importance parce qu'ils vont ensuite se lier au courant le plus radical de la Révolution espagnole qui sera les Amis de Durruti. Ils vont devenir le porte-voix parisien des Amis de Durruti. Donc, l'Union anarchiste, mouvement dominant, et mouvement choisi de préférence pour les échanges et la solidarité par la direction de la CNT espagnole. Donc, avec des méthodes qu'on retrouve aujourd'hui, popularisées notamment par Louis Lecoin, dans lesquelles il faut enlever ces idées politiques et créer de la solidarité avec des gens connus, des écrivains, des peintres, des chanteurs, etc., faire de la mousse pour que les
de gens... l'humanitaire, presque.
Vous voyez, du people, je ne sais pas comment dire. On va rassembler beaucoup de monde, on va faire parler du sujet. Alors, leur système est assez efficace dans ce que tu viens de dire, dans l'humanitaire. Ils vont créer des écoles, des hôpitaux, récupérer des enfants, faire passer de la nourriture, etc. Dans ce système-là, ils sont relativement efficaces. Il y a deux autres organisations anarchistes qui, au départ, sont... disjointes, mais qui vont se rapprocher rapidement. La plus importante numériquement, c'est la CGT SR.
Syndicaliste révolutionnaire.
Voilà, avec le journal qui restait, Combat syndicaliste. Eux sont une scission de la première CGT. Ils ont rejoint la CGTU du Parti communiste. Et puis, bien sûr, ils n'ont pas réussi à survivre avec le Parti communiste. Donc, petits groupes sont sortis du syndicat, et ont créé leur propre syndicat. Leur première demande était de syndiquer tous les anarchistes de France, mais même cette demande, ils n'y arriveront jamais. La majorité, par exemple, à l'Union anarchiste, on n'est pas syndiqué à la CGT-SR, on est syndiqué à la CGT tout court, mais pas à la CGT-SR. Donc, ils réclament, ils se disent être entre 6 et 8 000, mais là, c'est un peu plus difficile et à vérifier, et à mesurer l'importance de ces 8000. Il s'agit d'un syndicat et plus d'une organisation politique. Ce n'est pas le même type de militant. Et puis, ça aussi, suivant le moment. Le leader de la CGT-SR, c'est un personnage central pour la solidarité à l'Espagne révolutionnaire à Paris, c'est Pierre Besnard. Il est central parce qu'il va animer plusieurs groupes, mais il a une difficulté au départ, c'est qu'il est mal aimé. Il est très orgueilleux, très colérique, et il a créé autour de lui beaucoup d'inimitiés qui vont gêner son projet. Il a un projet très, très précis par rapport à la Révolution espagnole qu'il va écrire. On peut le reprendre aujourd'hui. Il a écrit point par point ce qu'il fallait faire selon lui, et qui bien sûr ne sera pas suivi. André Prudhomo, lui, crée la Fédération anarchiste de langue française, à l'époque on appelle la FAF. Je suis désolé. C'est un petit mouvement. Alors lui, je pense qu'on peut être d'accord sur les chiffres. Ils ne se disent pas plus d'être entre 500 et 600. Il est très composite. Et le seul point qui va relier les différents militants, c'est sa radicalité. Il regroupe aussi bien des individualistes très radicaux que ce qu'aujourd'hui on appellerait des ultra-gauches. Des conseillistes au départ, Prudhomo est marxiste conseilliste, et puis il garde une partie de ses idées des conseils ouvriers qu'il amène dans l'anarchisme, et donc crée cette organisation-là. Et ces trois organisations-là se détestent au départ, c'est une lutte assez terrible entre elles, et puis arrive la Révolution espagnole, et donc le premier mouvement est de s'unir pour défendre le mieux possible la Révolution espagnole. Donc ils vont s'unir à l'intérieur d'une organisation qui s'appelle le Comité anarcho-syndicaliste de défense et de libération du prolétariat espagnol. C'est long, mais c'est justement à cause de leur division interne qu'ils ont du mal à trouver la bonne dénomination. Ils s'arrêtent sur celle-là. C'est Pierre Besnard qui est choisi pour être le coordinateur, le secrétaire de ce comité, et chaque qu'une des trois organisations délègue à la direction, de fait c'est une direction du comité, 5 de ses membres. Donc Pierre Besnard plus 15 membres qui vont s'occuper du comité. Et ils vont organiser tout ce qu'on attend d'un comité, la solidarité pour la nourriture, les vêtements, les enfants, et puis bien sûr les autres problèmes qui vont se poser, notamment la question des armes. À Paris, on trouve aussi, c'est Paris qui est depuis 1935 le siège de l'AIT, l'Association Internationale des Travailleurs. L'AIT est recréée en 1922 comme une internationale anarcho-syndicaliste. Et même chose, le secrétaire de l'AIT, c'est Pierre Besnard. Et donc Pierre Besnard, en tant que secrétaire de la CGTSR et secrétaire du comité de soutien à l'Espagne révolutionnaire, plus secrétaire de l'AIT, va se sentir en situation de proposer un programme d'action aux Français, mais aussi, de manière beaucoup plus surprenante, aux Espagnols, qui ne vont pas supporter cette attitude, qui est une attitude de direction révolutionnaire, comme si voilà, ça, son poste à l'AIT lui donnait le droit de donner une stratégie révolutionnaire à la CNT, mais aucun autre groupe d'aucun autre pays à l'AIT n'a ne serait-ce que 10% de la force de la CNT. Donc, ils vont se sentir un peu floués, et à partir de là va commencer une lutte. Mais son plan est intéressant, même vu d'aujourd'hui. Son plan est en trois points. Premier point, difficile à faire à ce moment-là, élargir ce qui se passe en Espagne à toute la péninsule ibérique, c'est-à-dire faire rentrer le Portugal dans le conflit. Alors, c'est une analyse qui date un peu parce qu'elle s'appuie sur l'ancienne force de la CGT portugaise, qui a été le modèle de la CNT, qui a été à un moment donné aussi forte, et même peut-être un peu plus forte que la CNT, mais qui a connu une telle répression qu'à ce moment-là...
Après la dictature de Salazar en 1924.
N'est plus du tout en état de suivre le plan de Besnard. Ça, il s'en rend compte vite. Par contre, les deux autres points sont... serait possible. Les deux autres points, c'est le Maroc et les armes. Sur le Maroc, il suffit de regarder une carte, ça sort aux yeux de n'importe qui s'intéresse à cette révolution. Les nationalistes, les franquistes sont partis du Maroc, arrivent avec des troupes marocaines, et si on pouvait couper leur base arrière, eh bien voilà, une partie du conflit militaire, en tout cas, serait...
Ça compliquerait la tâche, disons, des franquistes.
Ça compliquerait leur tâche et ça permettrait de faire avancer la révolution là où les révolutionnaires tiennent la place, c'est-à-dire dans les villes. Pour ça, eh bien, Pierre Besnard, lui, a un plan qui est de libérer de prison le leader indépendantiste Abdelkrim. Il a un accord avec lui, enfin avec de ses partisans, et il faudrait que Barcelone, plutôt... la généralité, ou Madrid, le gouvernement républicain, ou même simplement les partis les plus puissants, annoncent, proclament l'indépendance du Maroc. Alors au début, il y a un débat, le Maroc dans son ensemble ou le Maroc espagnol. Alors, le débat est compliqué
parce qu'il y a la France.
Le Maroc dans son ensemble, c'est avec la France. Et c'est donc rentrer en conflit avec le gouvernement français, dans lequel certains révolutionnaires sont plus ou moins liés, plus ou moins impliqués, etc. Ce projet va s'étendre, parce que dans le même temps, il y a un autre projet dont Pierre Besnard ne sera pas au courant, comme il n'est pas aimé, on ne le tient pas au courant. Il y a un projet qui est mené là par un trotskiste, David Rousset, et un membre du journal La Révolution prolétarienne, Robert Louzon. Surtout Rousset qui s'en occupe dans un premier temps, Robert Louzon sert de messager. Il rencontre un comité différent d'Abdelkrim au Maroc, qui s'appelle le CAM, le Comité d'Action Marocain. Ils arrivent à un accord général sur la proclamation de l'indépendance, et là ils se mettent d'accord sur l'indépendance du Maroc espagnol à la demande des Marocains, qui ont peur que, proclamant l'indépendance du Maroc en sa totalité, les troupes françaises viennent dans le Maroc espagnol. Donc, ils ne sont pas de taille à lutter contre les troupes françaises, donc ils demandent proclamation que sur le Maroc espagnol. Et un accord est signé avec les Louzon, Rousset et le CAM. Cet accord est amené à Barcelone, présenté à la direction du POUM, présenté à la direction de la CNT, avec un accord, puis emmené à Madrid, le gouvernement républicain qui le rejette en 3 minutes.
C'est ça. Alors que peut-être que ça aurait pu influencer positivement la guerre, mais c'est vrai que...
C'est difficile de réécrire l'histoire, mais c'était assez probable. On coupait les arrières franquistes 2 fois, d'abord sur le Maroc lui-même, et ensuite l'essentiel des troupes à ce moment-là étaient marocaines, et le CAM promet...
C'était les troupes de choc.
Oui. Le CAM promet qu'une partie de ces troupes de choc feront défection.
Et c'est assez étrange, parce que en plus, le Maroc n'étant plus sous contrôle républicain...
juste une proclamation.
C'est ça, ça ne coûtait rien.
Ça ne coûtait rien, il s'agissait juste de proclamer, mais pas question. Alors tout ça est parti de... Il est parti d'une initiative française 2 fois, soit d'un côté Pierre Besnard, soit de l'autre côté le petit groupe trotskiste qui à ce moment-là s'appelle le POI. Ils sont vraiment très très peu nombreux. C'est rien du tout. Quand les Français vont envoyer, avant la création des brigades internationales, vont envoyer des gens se battre en Espagne, on peut considérer que grosso modo, le mouvement anarchiste envoie environ 1 000 000 de ses membres.
Notamment, du coup, dans la fameuse colonne, dans le groupe international de la colonne Durruti, qui fait l'objet du livre Les Fils de la Nuit, Souvenirs de la guerre d'Espagne, d'Antoine Jiménez, auquel on a déjà consacré une émission avec les Jiménologues, pour rappel.
Donc je reviens pas là-dessus. Donc voilà, 3e point pour Pierre Besnard, et sans doute le plus important, c'est la question de l'armement. Les anarchistes ont les armes qu'ils avaient pu mettre de côté avant la Révolution. Pas grand-chose. Les armes qu'ils ont prises quand ils ont pris des casernes, c'est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas grand-chose. Et puis, à l'intérieur de la Révolution espagnole, comme on le sait, c'est une révolution parce qu'on lutte contre le pouvoir et l'insurrection franquiste, mais on lutte aussi à l'intérieur du camp révolutionnaire contre les staliniens. Et la question de la possession des armes est essentielle. Les soviétiques ont, à ce moment-là, au moment du plan de Pierre Besnard, promis des armes, mais ils n'en ont pas encore fourni. Ils ont promis des hommes, qui seront les brigades internationales, mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc Pierre Besnard dit, comme n'importe qui aurait pu le penser, mais en tant que secrétaire de l'AIT, il pense qu'il faut le mettre en action, qu'il faut trouver des armes. Alors ça, trouver des armes, tout le monde est d'accord, y compris dans le mouvement anarchiste, et tout le monde a sa méthode pour amener des armes. Même en dehors du mouvement anarchiste, par exemple la gauche révolutionnaire de Marceau Pivert a réussi à faire passer 1500 camions d'armement. Donc on a un gros, gros système. Il y a la question de la non-intervention du gouvernement français, qui est plus complexe que ce qu'on dit généralement, parce que c'est surtout le symbole qui est fort de la non-intervention, parce que la livraison des armes s'effectue quand même. Au lieu de s'effectuer 2 jours comme on le voudrait, etc., elle s'effectue 2 nuits. Un certain nombre de préfets, de personnages importants comme Pierre Cotte ou Jean Moulin sont chargés de l'acheminement des armes françaises à direction de l'Espagne. Le fait qu'il y ait la non-intervention, ça provoque surtout une chose, pas la diminution des armes qui sont livrées en quantité impressionnante, ça change les destinataires des armes. C'est le gouvernement et principalement parmi eux le Parti communiste espagnol qui reçoit les armes françaises. Ils vont recevoir plus tard les armes soviétiques et les armes qui passent quand même la frontière en trichant avec les règlements de non-intervention qui permet au gouvernement de Blum de rester allié avec le Royaume-Uni, et ben ça va à une partie du camp républicain et la partie contre-révolutionnaire du camp républicain. Donc il faut impérativement que la principale force en Espagne, la CNT-FAI, reçoive des armes. Alors Pierre Besnard, avec les gens de l'AIT, se met en marche et trouve un... Alors j'ai pas réussi à trouver qui c'était. Il trouve ce qu'il appelle un consortium. Dans tous les textes, il appelle ça un consortium. J'ai vu que Miguel Amoros pense qu'il s'agit d'un gouvernement de l'Est, peut-être la Bulgarie, etc. Mais je n'ai rien trouvé, je n'ai pas de preuves dessus. J'ai juste les lettres de Pierre Besnard qui dit que c'est consortium qui peut livrer absolument tout. Avions, chars, etc. C'est pas, il ne s'agit pas de quelques fusils de chasse, on peut armer complètement le front anarchiste, et avec ça, on pourrait reprendre Saragosse et on peut changer le cours de la révolution. On peut faire de la révolution qui est dans toutes les villes espagnoles, en faire une révolution triomphante. Alors, il se déplace en Espagne, il propose son consortium à la direction de la CNT à Barcelone, qui tergiverse, il n'arrive pas à obtenir de réponse. Il obtient une voiture pour aller retrouver Doruti sur le champ de bataille. Doruti est enthousiasmé, revient avec lui à Barcelone et obtient l'accord de la direction de la CNT. Puis Doruti et Pierre Besnard prennent un petit avion qui les emmène à Madrid, où ils ont un échange assez violent avec Largo Caballero,
le Premier ministre.
Mais l'échange est victorieux pour eux. Le Premier ministre espagnol accepte de débloquer les fonds. Alors bien sûr, je reviens un petit peu en arrière, ça pose aussi une question théorique, c'est-à-dire qu'on va demander au gouvernement de débloquer les fonds pour avoir les armes, on a les armes, et à Barcelone on a les fonds aussi, parce qu'on a les banques, et donc on fait le choix, ce qui n'était pas le choix de l'AIT, c'était pas le choix de Pierre Besnard, son choix c'était on a les banques, on a de quoi payer, on paye, on verra après.
C'est le choix du respect de la légalité bourgeoise, en fait.
On décide de rester à l'intérieur du gouvernement, et donc de respecter la légalité bourgeoise, et donc de demander l'argent au gouvernement, et on n'envisage à aucun moment l'autre possibilité, qui était facile, ils avaient de quoi payer.
C'est là qu'on voit le rôle pas tout à fait révolutionnaire de la CNT à Barcelone.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce pas de côté avec la France, parce que dans les échanges avec les Français, qui eux sont moins nombreux, moins importants, etc., mais par la force des choses, pose les bonnes questions, et du coup, on voit les réponses difficiles. Là, on voit la réponse la plus franche, la plus radicale, est celle de Doruti, mais même lui, qui autrefois avait dit « on prendra l'argent dans les banques », et bien là, il n'est pas question d'aller prendre l'argent dans les banques, on va demander au gouvernement. Et là, le gouvernement finit par dire « oui, on va faire on paye la moitié, on a la moitié de l'armement demandé », et on verra si c'est de la bonne qualité, si on continue. Et le soir même, l'ambassadeur d'Union soviétique est au courant, réveille Pierre Besnard dans sa chambre d'hôtel qui refuse de le recevoir, et puis va dès le lendemain matin voir le Premier ministre espagnol, lui interdit de faire cet achat, au Caballero obéit, et lui dit qu'en échange, on va accélérer ce qui avait été promis, la livraison des armes soviétiques.
Mais pas du coup à la destination des colonnes anarchistes.
Voilà, qui n'avaient pas d'armes et qui en auront encore moins. Et qui par contre, à partir de là, vont devoir supplier inlassablement pour avoir des armes.
Donc ils vont se transformer un peu en une force un peu, du coup, qui mendie quoi. Oui. Qui mendie des armes, ouais. Et sans jamais les obtenir d'ailleurs, jusqu'au bout.
Ils vont jamais les obtenir, mais on va pouvoir augmenter la pression sur eux inlassablement pour obtenir tout ce qu'on veut, pour obtenir que Doruti aille à Madrid et s'y fasse tuer, etc., etc. Donc, voilà. Là, on a en trois points le plan de l'AIT. Ce plan de l'AIT qui était complété par la décision, l'envie, la volonté de faire de Paris un point central pour l'action révolutionnaire et la demande de fonds à la CNT qui les avait mais qui va les refuser, de créer un quotidien qui puisse rayonner sur toute l'Europe, dont le siège soit à Paris, financé par la CNT, etc. Ça ne marche pas. Il y avait eu un début de projet comme ça mené par la CNT, c'est pour ça qu'ils avaient fait appel, là, plus à Pierre Besnard, mais à André Prudhomme. Ils avaient fait venir André Prudhomme à Barcelone, pardon, parce qu'ils ont eu envie de faire un journal français qui devait rayonner sur toute l'Europe, qui est l'Espagne antifasciste, et demande à Prudhomme, qui est cultivé, journaliste, qui connaît tout ça, de diriger le journal, et qui devait aussi, qui aurait pu devenir le quotidien dont rêvait Pierre Besnard. Mais la même chose, ça va pas durer, parce que André Prudhomme, lui, ben, Il est anarchiste, il se considère comme libre, donc il s'occupe du journal. Et dans le journal, le ton, les articles, est libre. Et notamment quand la CNT va décider de participer au gouvernement, l'Espagne antifasciste va critiquer la CNT. Et la direction de la CNT va devenir furieuse, d'abord verbalement, puis ensuite tout simplement arrêter l'Espagne antifasciste, l'arrêter en Espagne, demander à André Prudhomo de continuer à faire son journal, mais à Paris. Donc on le renvoie à Paris. Comme ça, il aura moins d'écho, il continue à être critique à Paris, et on décide, si ma mémoire est bonne avec le numéro 30, d'arrêter. On arrête, Prudhomo, lui, reprend un autre journal qui s'appelle L'Espagne Nouvelle, qui va du coup être de plus en plus critique.
Donc en fait, il coupe les fonds avec... la CNT décide en fait de faire taire les voix critiques.
Oui. Toutes les types de voix critiques, celle de Pierre Besnard d'abord, celle de Prudhomo ensuite, les voix de Nicolas Lazarevitch aussi, qui lui écrit dans la Révolution prolétarienne. Mais lui, il a participé à la Révolution russe, et il sait ce que sont les staliniens. Donc, dès le début, il va mettre l'accent sur l'explication, la critique et le combat nécessaire contre les staliniens, sinon... On va vers la défaite, explique Lazarevitch, mais lui non plus ne va pas être entendu, va être rejeté, etc.
Au nom de l'idéologie antifasciste officielle qui va conduire à la CNT à toutes les compromissions et finalement qui est un échec stratégique complet. Quoi.
Alors, quand on parle d'idéologie antifasciste, là, en partant de Paris et en regardant ce qui se passe en Espagne, on a une vision très, très simple, très claire de ce qu'a été l'antifascisme à ce moment-là. C'est une vision délibérée des staliniens, c'est une instrumentalisation délibérée pour se faire valoir des démocraties bourgeoises, etc. Et pour faire pression à l'intérieur de leur propre camp. Alors non seulement en Espagne, mais en France aussi. Toute personne écrivant, y compris dans le mouvement anarchiste, reçoit la visite d'autres personnes disant qu'on ne doit pas critiquer... l'URSS, au nom de la lutte contre le fascisme, etc. On ne veut pas critiquer ce qui se passe en Espagne parce qu'on va faire le jeu des fascistes, etc. C'est un mouvement général.
On ne doit pas appeler à la révolution non plus. L'objectif, c'est avant tout la victoire contre Franco.
Voilà. Donc ça va se répartir partout. Pourtant, à Paris, on est bien placé pour savoir que c'est un peu plus complexe parce que c'est à Paris que se retrouve aussi, et ça joue sur les mouvements révolutionnaires toutes tendances confondues, c'est à Paris que se retrouvent les principaux réfugiés des différents pays. Par exemple, les réfugiés anarchistes italiens sont un millier. C'est d'ailleurs assez impressionnant quand on regarde dans les archives, on a des journaux, des textes des Italiens, des anarchistes italiens qui sont à Paris, jusqu'au début de la Révolution espagnole. Et alors là, c'est pas que quelques-uns sont partis, ils sont tous partis en Espagne. Le lendemain, on n'a plus de traces de ces Italiens à Paris. Mais on a aussi des Allemands qui ont fui, on a
des Ukrainiens.
Des Ukrainiens, des Hongrois, Robert Capa, etc. Qui lui, au départ, alors ensuite, il faut qu'il trouve du travail, au départ, plutôt des sympathies libertaires. On a sa compagne, Gerda Taro, qui elle est au départ une militante. D'un parti qui est affilié, le SAP, qui est affilié qui est proche du PUM. Même chose pour avoir du travail, on va se tourner du côté des staliniens, de l'humanité, etc., de regard, des journaux du Parti communiste. Mais on a tout ce rassemblement sur Paris qui permettait d'avoir une vision un peu plus claire, même si la vision claire, elle ne vient pas. Elle va venir par étapes et par personnes différentes. Par exemple, quand on a les procès de Moscou, les discours les plus clairs vont venir d'André Breton. C'est André Breton qui demande dans un de ses discours qu'on change le mot d'ordre qui était celui des trotskistes à l'époque de défense conditionnelle de l'URSS par défense de l'Espagne révolutionnaire. Voilà. Donc on a les surréalistes... les petits partis trotskistes. Alors, tout petit, j'ai dit tout à l'heure qu'environ un millier de d'anarchistes français étaient partis se battre là-bas. Du côté des trotskistes, là, on a le chiffre précis, ils sont 50 à être partis. Sur les 50, très très peu de Français sont essentiellement des Italiens qui avaient fui et qui vont tous partir ensemble. Et
des bordiguistes, en l'occurrence.
Majorité de bordiguistes. Une trentaine de bordiguistes et 20 trotskistes. Voilà pour le tableau du mouvement anarchiste face à la Révolution espagnole. Ensuite, il y a les meetings de solidarité qui vont être pris en main. Tout à l'heure, j'ai parlé des différents groupes qui vont être pris en main par l'Union anarchiste. Quand la CNT en a assez des articles critiques de Prud'homo, elle ferme l'Espagne antifasciste. Puis, elle en a assez des critiques de Pierre Besnard. Alors, ils disent, là, ils ont le poids pour ça, soit on change de secrétaire général de l'AIT, soit on change le fonctionnement de l'AIT, soit nous, CNT, on s'en retire. Et c'est la principale contribution militante, financière, etc. de l'AIT. L'AIT sans la CNT, c'est plus rien. Donc, Besnard accepte. Et puis, ils vont dire le comité anarcho-syndicaliste de solidarité avec le prolétariat espagnol, etc., ne nous convient pas. C'est un comité qui est beaucoup trop critique. Alors, on veut le changer par un comité qui nous soutienne vraiment. Et ils vont faire ce changement en deux étapes. Première étape, ils demandent à l'UA de créer une autre organisation. Et l'Union anarchiste crée le comité Espagne libre, qui devient un comité uniquement tourné vers la solidarité et qui ne fait plus aucune forme de critique. Et ça rejoint le positionnement politique de l'Union anarchiste qui est... de créer un front révolutionnaire. Dans l'intérieur du comité Espagne libre, on fait rentrer les gens de la gauche révolutionnaire, on fait rentrer les gens de la bataille socialiste, etc. Le projet de l'Union anarchiste prend forme, un conglomérat qui va regrouper tout ce qui est, j'allais dire, à gauche et en dehors de la SFIO et du Parti communiste, mais c'est même pas vrai, parce que dans les meetings, on invite, par exemple, un meeting où on invite Marcel Cachin à parler, on invite même dans un autre meeting Léon Jouvaux à parler. Donc on élargit autant qu'on peut.
Des réformistes centristes plutôt. Oui.
Mais même ça, ça ne convient pas à la direction espagnole. C'est encore trop libre et trop critique. Donc ils demandent à l'Union anarchiste qui avait créé le comité Espagne libre, et ce comité Espagne libre qui fonctionnait en même temps que l'autre comité qui restait. Donc à un moment donné, on a deux comités de solidarité à l'Espagne révolutionnaire, deux comités anarchistes. Mais le comité Espagne libre ne convient pas à la direction de la CNT, qui lui demande de s'autodissoudre, ce qu'il fait. Et à la place, on crée le sigle le plus célèbre des trois, qui est Solidarité internationale antifasciste, mais dont l'évolution s'entend dans le sigle. On change de sens, là c'est la solidarité en premier et l'antifascisme qui domine, et pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans les textes de critique qu'on n'ait pas prévu, etc., le siège de la SIA est à Valence. Donc,
le siège du gouvernement, quoi.
Voilà. Donc, plus de critiques possibles venant de la France. Plus de critiques possibles, elles vont continuer, mais elles vont être minoritaires, et d'abord minoritaires tout court, et puis ensuite minoritaires y compris en France. Y avoir des critiques sur d'autres aspects. Par exemple, Nicolas Zarevitch va critiquer les discours de plus en plus nationalistes venant du camp anarchiste. Ce qui est quand même assez surprenant.
Notamment l'utilisation même du mot race, oui. par la ministre anarchiste.
Federica Monseni qui utilise le mot race, qui parle des Allemands et des Italiens comme d'un peuple châtré. Et en expliquant que les Espagnols, pas les militants anarchistes, les Espagnols en eux-mêmes sont bien supérieurs, etc.
Même du virilisme, d'une certaine façon.
On a une succession de discours nationalistes comme ça, qui fonctionnent dans le cadre de la guerre, avec des passages peu de choses près racistes, visant bien sûr les troupes marocaines.
Oui, bien sûr. Mmh.
Donc... voilà, on a aussi les critiques sur le travail. Là, il y a surtout un texte de Simone Veil sur le fait que à Barcelone, on décrète la peine de mort pour les gens qui ne respecteraient pas les rythmes de travail prévus. Donc on est parti d'une de conseils ouvriers, d'une appropriation complète du mode de production, et puis on arrive à un certain moment à la peine de mort si le travail n'est pas au niveau demandé, au niveau souhaité. Voilà pour l'essentiel du tableau du mouvement français.
Et de ses critiques, du coup.
Et de ses critiques. Ensuite, ce mouvement français, il est divisé vraiment de toutes parts. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je parle des surréalistes, mais les surréalistes n'ont pas de contact avec les leaders anarchistes. Il y a des écrivains qui sont proches de ça, de la Révolution espagnole, comme Georges Bataille, mais ils n'ont pas de contact ni avec les trotskistes, ni avec les anarchistes, etc. Chacun fait ce qu'il pense avoir à faire dans son petit coin, et il n'y a pas de relais dans tout ça. Les seuls moments où ils se retrouvent, ce sont des meetings, et c'est vrai que les meetings, à cette époque-là, on ne s'en rend pas très bien compte aujourd'hui. Les derniers meetings de la SIA, quand ils ont lieu à Paris, sont des meetings qui regroupent plus de 20 000 personnes. Ils sont généralement au vélodrome d'hiver, et on a une foule venue, malgré tout, soutenir la Révolution espagnole, même si c'est de manière de plus en plus contrainte. On a une foule importante à Paris, je ne sais pas pour quelle cause on pourrait rassembler
aujourd'hui,
20 000 personnes aujourd'hui.
Voilà. À part des hologrammes.
Voilà, donc ça c'est le tableau général du mouvement français. Et ils vont tirer des conséquences de tout ça, mais ces conséquences vont faire long feu. À la fin, ils vont tous revenir sur ce qu'ils ont vécu, et ceux qui étaient critiques, et vont revenir essayer de théoriser ces critiques. Celui qui va aller le plus loin dans la théorisation, enfin les deux qui vont aller le plus loin sont Lazarevitch et Riedel, sur deux optiques différentes. Lazarevitch va rester sur son sujet principal qui est la critique du stalinisme et de la bureaucratie. Donc il va développer là-dessus, c'est lui qui va écrire sur ce qu'il appelle les tchékas, les prisons qui se créent à Barcelone, etc. Et les Français qui disparaissent, dont on sait qu'ils sont partis d'un jour, on ne les retrouve pas, etc. Et Riedel, lui, va dans une toute petite revue, à partir de 1938, qui s'appelle Révision. Dans cette toute petite revue, il va théoriser la défaite. Peut-être pour l'avoir théorisé, ce sera celui qui va ensuite le rester le plus longtemps militant. Prud'homo se retire, Pierre Messnard ne veut plus entendre parler de quoi que ce soit d'autre que du syndicalisme. Lazarevitch, on va le voir de moins en moins. Riedel va continuer, il va théoriser cette défaite comme un défaut interne de l'anarchisme. S'il y a eu cette dérive, dans ces circonstances-là, à cette époque-là, avec ces gens-là, c'est qu'il y avait un défaut interne de l'anarchisme. C'est le mouvement le plus fort numériquement, non seulement que l'anarchisme, mais que n'importe quel mouvement révolutionnaire n'ait jamais connu. On a des centaines de militants de qualité, capables de théoriser, capables d'haranguer les foules, capables de diriger, même s'il n'est pas de qualité, ils avaient un armement, etc. Le défaut que Riedel va essayer de théoriser, c'est selon lui l'absence de démocratie. Pas démocratie au sens bourgeois du terme, bien sûr, mais au sens de la démocratie directe. Il pense qu'à l'intérieur du mouvement anarchiste ne règne aucune forme de démocratie.
C'est la bureaucratie de la CNT qui décide tout.
C'est une bureaucratie préexistante. Que si ça a pu déraper comme ça, c'est parce qu'il y avait une bureaucratie en germe. Et que dès que cette bureaucratie a trouvé les gens au-dessus d'eux, mieux habitués, capables de tenir le discours de leur classe, ils se sont rangés derrière cette bureaucratie. Pas tous, mais une partie. Et que d'autre part en France, ou les gens qui ont voulu les soutenir, qu'à l'intérieur des groupes anarchistes, officiellement il n'y a pas de chef, en réalité il y a des chefs beaucoup plus puissants qu'ailleurs, sont des chefs autoproclamés.
Des leaders objectifs.
que personne ne peut remettre en cause, puisqu'ils sont, ils n'ont été choisis par personne. Ils ont,
ils tiennent au charisme, entre guillemets.
Ils ont réussi à imposer leur charisme et ils tiennent l'organisation. On sait que la CNT en Espagne et la FAI a longtemps été tenue par le groupe de Garcia Oliver, Doruti, etc., qui s'étaient juste choisis entre eux. En l'occurrence, on aurait pu avoir un pire choix, hein, c'est parmi ce que l'histoire a compté comme de meilleurs révolutionnaires. Mais quand même, on a une organisation qui est aussi de 800 000 à 2 millions de membres, et puis un petit groupe d'une dizaine de personnes qui décident quand il faut attaquer, où il faut attaquer, et pourquoi. Alors, la plupart du temps, ils ont plutôt bien décidé, mais ils sont choisis par personne, sur aucune ligne, à part la leur.
Et qui décident s'ils rentrent au gouvernement, qui se coupent progressivement de leur base, qui la trahissent avec la dissolution des comités antifascistes en novembre 1936, avec la militarisation, l'entrée au gouvernement qui n'a pas été discutée, et aussi bon bah finalement en mai 1937 avec l'écrasement de l'insurrection ouvrière de Barcelone, et puis finalement l'humiliation au final avec l'accord avec l'ORT, le syndicat on va dire socialo-stalinien en 1938, effectivement, il y a vraiment un problème. C'est pour ça que c'est important, je pense, qu'on l'a bien montré dans l'émission, c'est que, évidemment, critiquer la CNT, c'est pas critiquer tous les militants anarchistes. Au contraire, il faut bien distinguer la base et tous ces leaders objectifs proto-bureaucrates qui, progressivement, ont pris toutes ces décisions stratégiques contre-révolutionnaires et qui ont poussé à l'unité antifasciste et qui ont fait ce qu'on pourrait quasiment appeler des purges intellectuelles. Enfin, ils ont purgé toutes les critiques qui leur étaient adressées de France. Quoi.
Officiellement, la raison donnée à toujours, c'est la possession des armes. Je ne crois pas que ça explique tout. Je crois que d'abord, on le voit parce que la possession des armes a été à un moment donné possible et qu'on ne se tourne pas vers ça. Je crois, oui, plutôt que c'est une proto-bureaucratisation qui est là, en germe, qui attend et qui, voilà, comme un... comme un virus qui s'étend au moment où il faut, alors pas partout, etc. Mais c'est impressionnant, parce que la CNT tient avec, au début de la Révolution, avec un seul membre permanent. Et puis, quand la syndicalisation devient obligatoire, on se retrouve là avec 2 millions de membres, et puis par contre, là, des bureaux, là, on en trouve partout. Des membres permanents payés, etc., on va en trouver partout. On voit aussi à l'inverse que la base de la CNT ne correspondait pas à ça, on le voit bien sûr par les journées de mai 37, et notamment par l'organisation des Amis de Doruti, ce qui me ramène à Paris, puisque les personnages que j'ai mis en avant vont être les personnages qui vont servir sur Paris de relais aux Amis de Doruti. Lazarevitch, Prudhomme, Riedel, Besnard prennent contact avec les Amis de Doruti et disent ça c'est la révolution, c'est celle-là qu'on attend, et on va vous servir de relais. De manière différente, hein. Lazarevitch, Prudhomme et Besnard relaient les textes. Riedel s'engage plus et crée la revue Révision, qui est la revue des Amis de Doruti en France. Et c'est dans cette revue qu'il fait cette critique du mouvement anarchiste, critique globale avec la bureaucratisation, et critique plus factuelle avec la tendance au chef autoproclamé. Et ils vont se faire les propagandistes des Amis de Doruti, faire des réunions à Paris, des meetings, etc. Et puis, la révolution, l'Espagne républicaine, tout ce qu'on veut est défait. Ils sont défaits avec. Ils vont, Prudhomme, partir en Suisse, Riedel en Amérique latine, etc., etc. Et donc, ils vont, ce mouvement-là français disparaît. Et les conclusions qu'ils ont tirées de la Révolution espagnole, les conclusions tristes, pessimistes, mais importantes, ont été pour l'essentiel oubliées. Je pense que n'importe qui s'y connaît, qui a l'habitude d'écouter des radios libertaires, a entendu parler de solidarité internationale antifasciste. C'est beaucoup plus rare qu'on ait entendu parler du comité anarcho-syndicaliste qui existait avant et qui était beaucoup plus fort, de l'opposition qu'il y a eu entre les dirigeants. Besnard se comporte en dirigeant, un dirigeant anarchiste comme Pierre Besnard, et puis la direction de la CNT, etc.
Il y a eu une sorte de d'amnésie plus ou moins volontaire de la part de la direction de la CNT qui ensuite s'exile en France, autocensure pour certains, d'autres non-connaissance hein, de ça, et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, même au sein de l'anarchisme, la critique de toutes les dérives, et des dérives qui en l'occurrence étaient structurelles, si on suit Charles Ridel, tout le penchant bureaucratique, antifasciste, gestion du capitalisme, autogestion du capitalisme à Barcelone, tout ça n'a pas fait l'objet, n'est toujours pas remis en cause, et il reste le folklore de l'autogestion à Barcelone et tout ça. Et c'est pour ça que le fait que tu rappelles l'existence de toutes ces critiques venant de France et aussi venant d'Espagne, puisqu'on a parlé de Los Amigos de Dolote, qui sont vraiment la critique interne au mouvement anarchiste.
Qui sont, je l'ai découvert en faisant cette petite recherche, je ne m'attendais pas du tout à ça, qui est un mouvement nombreux. Barcelone, juste à Barcelone, il y en a d'autres à Valence, etc. Barcelone, les amis de Dolote revendiquent 35 000 personnes.
Oui, c'est énorme. Ça montre bien que ce n'est pas juste un groupuscule obscur comme d'ailleurs la CNT. Comme la CNT d'ailleurs a pu plus ou moins, enfin l'histoire officielle plus ou moins nous présente ça comme étant un groupuscule un peu dissident, alors qu'en fait c'est tout simplement la base, entre guillemets, la base militante de la CNT qui ne comprend pas la trahison, la contre-révolution et le fait que la CNT participe pleinement de cette contre-révolution.
Je crois que c'est important de comprendre ces mouvements structurels de tendance révolutionnaire, je dis révolutionnaire là et pas anarchiste, parce qu'on a la même dérive par exemple à l'intérieur du POUM, et le même refus de regarder, etc. On le voit mieux parce que le POUM c'était pas 800 000 membres au départ mais 8 000, donc bon, ils vont grossir aussi, mais quand même pas dans la même proportion. Donc on peut regarder ça très bien. Une opposition d'une violence inouïe entre la direction du POUM et Trotsky, où ils s'insultent à qui mieux mieux, et je saurais pas tranché là-dedans, mais par contre, cette question de la bureaucratisation, elle est dans leurs échanges, et elle est importante. Et la bureaucratisation par l'alliance avec le gouvernement, et on demande à rentrer dans le gouvernement, mais on n'y arrive pas, alors du coup on rentre que dans le gouvernement de la généralité, et même quand on se fait écraser, quand ses dirigeants sont assassinés par les autres, on continue à chercher à rentrer dans le gouvernement, on continue à chercher des accommodements, etc. Donc c'est un mouvement général. Alors, si on regarde le poids des staliniens en Espagne, bien sûr, ils ont derrière l'URSS, ils ont les armes qui arrivent, ils ont l'argent qui arrive, bien sûr, ça fait une différence énorme. Mais là aussi, je crois que ça ne suffit pas à tout expliquer. Là aussi, il y a un mouvement structurel. Ce n'est pas un hasard si, en France, beaucoup de fondateurs du Parti communiste venaient du syndicalisme révolutionnaire. On va avoir un fond commun qui va pouvoir se retrouver dans le discours, dans la forme, etc. On a, voilà. C'est juste, dans ce petit bouquin, je voulais juste pointer quelques petites choses du doigt pour qu'on... J'aimerais qu'on y réfléchisse ensuite. On a la question de la bureaucratie, c'est une question essentielle dans la Révolution. C'est les bureaucraties qui ont gagné jusqu'à présent. Et comment elles se forment, et voilà, c'est pas juste des méchants qui sont là avec une étiquette, c'est une forme sociale. Et cette forme sociale, elle apparaît même quand elle n'est pas prévue et même quand elle est sur le terrain où on devrait l'attendre.
Dans l'anarchisme.
Voilà, dans l'anarchisme. Dans l'anarchisme, là où c'est développé au mieux en Espagne. Aucun autre équivalent, le Mexique, il y a l'Ukraine, mais c'est quand même pas équivalent. Donc là, on a un mouvement important, mais qui va quand même se bureaucratiser. Alors qu'il a, au départ, tous les éléments pour réussir. Il y a la possibilité du Maroc, il y a la possibilité d'avoir des armes. On demande, c'est Dorothy qui le demande dans le journal, on demande aux anarchistes français d'arrêter de venir se battre en Espagne.
Et aussi une troisième chose qui paraît un peu évidente, mais c'est évidemment la solution entre guillemets de la révolution sociale, qui est une tension dont on a parlé dans l'émission avec les Jiménologues, qui est le fait que la base militante pousse à une révolution sociale, c'est-à-dire à la réalisation ici et maintenant du communisme libertaire, alors que la direction de la CNT, elle, va plutôt préférer la collaboration avec l'État bourgeois et avec les staliniens, et d'autre part, la gestion, la co-gestion, en fait, du capitalisme, et la non-remise en cause des rapports capitalistes, c'est-à-dire du travail, du marché, tout ça jusqu'à même respecter les banques, essayer de les autogérer et tout ça. Et effectivement, on voit que les deux tendances vont ensemble, c'est-à-dire d'une part, disons, la forme du mouvement qui se structure sous la forme d'une bureaucratie, coupée de sa base, qui prend des décisions finalement bourgeoises et conservatrices, et d'autre part, un contenu révolutionnaire qui est pour, en fait, pour cette bureaucratie, qui est un contenu en fait contre-révolutionnaire, qui est, disons, résumé la révolution à, au contrôle ouvrier des usines, c'est-à-dire en fait à faire bosser les ouvriers, à les astreindre aux mêmes cadences de travail, voire à des cadences de travail encore plus importantes, à reprendre les usines des patrons. Et c'est là qu'on voit dans la mémoire aussi comment est-ce que la révolution espagnole a été présentée en France jusqu'à aujourd'hui. On insiste beaucoup, notamment par exemple dans Vivre l'Utopie, qui a des aspects intéressants, qui est un documentaire qui a des aspects intéressants, mais où on insiste beaucoup sur le fait que on s'est bien occupé des usines, et les patrons, quand ils sont rentrés, ils trouvaient que c'était vraiment incroyable. Mais est-ce que c'est vraiment ça, faire la révolution sociale? Est-ce que c'est vraiment moderniser l'appareil de production du capitalisme pour le rendre en meilleur état aux patrons qui suivent?
La révolution espagnole, la guerre d'Espagne, c'est une succession d'amnésies emboîtées. La plupart du temps, on traite la guerre d'Espagne, les héroïques combattants qui étaient le dernier rempart contre le fascisme, et on oublie que c'est une révolution. Alors, certains vont rappeler que c'est une révolution, mais on va en rappeler qu'un aspect. Et puis, on va oublier les aspects critiques, on va oublier de décrire ce qu'a été cette révolution, etc. On a, je crois que c'est ça le traumatisme qu'on retrouve dans les romans, etc. C'est que on a sabré d'abord, officiellement, le franquisme a interdit la mémoire, et donc on a une mémoire sabrée, et puis quand elle revient, c'est pas la mémoire entière qui revient, elle revient par morceaux, dans des mémoires qui sont elles-mêmes coupées. D'abord, revient massivement la mémoire stalinienne, puis ensuite une mémoire qui serait un peu plus libertaire, mais qui n'est pas complète. Tous les libertaires sont héroïques, mais on oublie de dire les éléments critiques, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas, au départ, le fait que... On parle tout le temps de la Catalogne, mais au début de la Révolution espagnole, il y a deux grandes régions anarchistes, c'est la Catalogne et l'Andalousie. Et l'Andalousie est passée rapidement par perte et profit, et c'est pas le même anarchisme, et c'est pas les mêmes leaders, et on s'en fout un peu.
Donc, il y a l'Aragon aussi, en plus.
Oui, après il y a l'Aragon, il y a Saragosse, etc. Voilà, donc,
oui, mais je pense que c'est important, effectivement, de parler de ce problème de la mémoire, puisque bon, l'année dernière, on a assisté un peu... justement aux 80 ans de la Révolution espagnole, et c'est vrai que la relecture critique dans les rangs libertaires de cette révolution n'est pas encore achevée. Il y a encore une sorte de chape de plomb qui célèbre la grandeur de la CNT, 800 000 membres et tout ça, sans voir les problèmes, quoi.
Alors là, j'ai surtout parlé des problèmes vus de France sur l'Espagne, mais... quand on regarde ce qui se passe en France, on voit aussi des problèmes particulièrement... Là, problèmes français qui ne se posaient pas en Espagne, comme par exemple la question du pacifisme. Et là, c'est vraiment essentiel dans le débat français. Les mouvements anarchistes sont divisés en deux sur cette question-là. Là, par contre, vu d'aujourd'hui, quand dans n'importe quel journal libertaire, on rappelle l'Espagne, c'est pour honnir la non-intervention, etc. C'est oublier que dans les années 36-37, dans les journaux anarchistes parisiens, il y a beaucoup d'articles qui saluent la non-intervention, qui l'acclament, qui la réclament. Simone Veil écrit, elle ne le publie pas, mais elle écrit un long texte qui s'appelle « Non-intervention généralisée ». Elle défend.
Finalement, il est quand même allé.
Il est quand même allé, mais c'est en revenant qu'elle écrit ça. Hein.
Ah oui.
Et elle commence en disant « Même quand j'étais sur le front, je défendais Léon Blum ». Là, on a un autre problème qui ne se pose pas en Espagne, puisque l'Espagne n'avait pas été pendant la Première Guerre mondiale, qui est tout plutôt que la guerre, y compris la guerre quand c'est une révolution. Et on a énormément de petits... Alors là, je ne pouvais pas tous les citer, mais il y a énormément de petits courants pacifistes, de feuilles où ils sont une cinquantaine, etc. Et eux refusent de soutenir la révolution espagnole parce que c'est une guerre. Et donc... Il faut faut défendre la paix à tout prix. Et comme le gouvernement social-démocrate a fait un accord avec les Anglais, un texte qui, à leurs yeux, leur semble préserver la paix, eh bien, ils vont défendre ce texte-là.
C'est un texte hypocrite, en réalité.
Une discussion à l'intérieur du mouvement anarchiste. C'est une discussion, par exemple, à un moment donné, la revue La Révolution prolétarienne est scindée en deux. Ceux qui soutiennent la non-intervention, ceux qui s'y opposent. Vraiment, deux groupes à peu près numériquement de la même taille et qui s'affrontent sévèrement sur cette question-là. Donc on a un ensemble de confusions. C'est aussi pour ça. Ils pouvaient pointer telle ou telle critique de ce qui se passait en Espagne. Ils ne pouvaient pas réellement faire la leçon. Ils sont eux-mêmes faibles, divisés, et divisés sur des questions un peu bizarres comme celle du pacifisme. Si on fait la révolution, ça passe forcément par une étape un peu violente. Le moins possible, j'espère, mais quand même. Donc, à l'intérieur, on va retrouver ces courants-là, y compris, par exemple, le courant le plus... dans les textes les plus favorables à la révolution espagnole, c'est la Fédération anarchiste d'André Prudhomme. Mais à l'intérieur de la Fédération anarchiste, on a des pacifistes qui, dans les meetings, dans les réunions, s'opposent à ceux qui partent se battre là-bas, etc. Donc, on a cette opposition sur la question de la non-intervention qui, encore une fois, vu d'aujourd'hui, toujours penser que la non-intervention a dû toujours être critiquée. C'est pas le cas. Quand on prend le libertaire, on a à peu près autant d'articles qui défendent la non-intervention que d'articles qui s'y opposent. Quand j'ai commencé ce petit travail, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'était une question réglée. Les anarchistes s'étaient opposés à la non-intervention. Là, par contre, les trotskistes, les bordiguistes sont beaucoup plus clairs. Ils s'y opposent d'emblée. D'emblée, ils expliquent que la non-intervention, elle n'est pas dirigée contre les pays qui pourraient faire la guerre en Europe, elle est dirigée contre la révolution.
Bien sûr.
Ils ont au moins cette clarté-là.
On touche à la fin de cette émission. On recommande vivement la lecture de ce livre « La révolution des fêtes, les groupements révolutionnaires parisiens face à la révolution espagnole », publié aux éditions Noir et Rouge en 2013, avec un très bel ouvrage, je trouve, avec aussi des très jolies photos au milieu, et qui, en plus, est bien écrit, et qui complétera amplement la présentation qu'on a fait, qui revient sur certaines choses dont on n'a pas trop parlé, c'est-à-dire la Révolution espagnole, puisqu'on a déjà consacré une émission à la Révolution espagnole. En tout cas, on espère que ça vous aura donné un aperçu de ce qu'a pu être à la fois l'engagement des révolutionnaires parisiens dans la Révolution espagnole et aussi leur regard critique qui a été trop souvent... mise de côté, oubliée, volontairement ou involontairement, y compris jusqu'à la mémoire officielle, entre guillemets, de l'anarchisme. Merci Daniel Ayache.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.